Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Le 6 novembre prochain, à 13h02 très précisément, les concurrents de la route du Rhum s'élanceront depuis Saint-Malo, destination Pointe-à-Pitre, après quelques 3543 milles nautiques, soit 6562 km en mer. Ce matin, le skipper malouin Erwan Tibouméri, qui prend le départ de la route du Rhum le 6 novembre prochain, est notre invité. Il est en direct avec nous, pas très loin de son bateau. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis à bord de mon trimaran, le trimaran Interaction, qui vient d'être baptisé à 14h tout à l'heure. On sort à peine de la cérémonie. Nous avions le curé de la cathédrale de Saint-Malo qui était là, le père Benoît, ainsi que mon parrain Idriss Aberkane et la marraine Marie-Laure Collet.
Voilà donc, le baptême est fait, l'océan s'ouvre devant vous. C'est votre deuxième participation à la route de Rhum.
Oui, tout à fait. C'est ma deuxième participation après une première à la dernière édition en 2018. Toujours dans la même catégorie de bateaux, mais cette fois-ci avec un trimaran au lieu d'un catamaran il y a 4 ans.
Vous aviez dû abandonner il y a 4 ans. Ça avait été une grande déception pour vous.
Oui, effectivement. Le catamaran que j'avais n'était pas le bateau idéal à l'époque. Il a beaucoup souffert dans la première semaine de course. J'avais dû faire un premier arrêt à Brest, et puis lors d'un second départ en course, il a fallu que je rentre une seconde fois vers la Bretagne, à Lorient cette fois-ci, et ça a été la fin de l'aventure après 7 jours après le départ.
On imagine la déception, mais il y avait aussi, j'imagine, tout de suite l'envie de repartir.
Eh bien voilà, c'était mon envie de repartir qui m'a permis d'être là cette année. Je n'ai pas cessé de travailler sur ce projet depuis 2018. Je me suis accroché à l'idée de trouver un autre bateau, cette fois-ci en trimaran, et un bateau qui avait déjà fait ce parcours. C'est un trimaran qui a été construit pour la Route du Rhum 1990 et qui va réaliser avec moi sa 4e Route du Rhum.
Donc un bateau à toute épreuve, si j'ose dire. Comment vous êtes venu avoir envie du grand large, avoir envie de vous tourner vers la voile ?
Ça vient de très longtemps. Dès mon enfance, j'étais très attiré par la voile, par aussi les grandes courses. Je suis né à Saint-Malo, donc j'ai été bercé par les routes du Rhum. Dès l'âge de 10 ans, j'ai pu croiser les grands navigateurs de l'époque, qui étaient Éric Tabarly, Florence Artaud, Jean-Henri Guidel. J'étais en admiration par le fait de croiser Serge Gainsbourg, Jane Birkin sur leur ponton. Et donc je me suis dit, mais qui sont ces gens, vers où vont-ils, quelle liberté ont-ils, etc. Ils m'ont fait rêver littéralement. Et donc petit à petit, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, et j'ai construit mon parcours de marin au fil des années, des décennies, pour finir par me retrouver dans le même bassin qu'eux et avec un trimaran qui ressemble au leur. J'ai aujourd'hui encore des idoles de ma course, puisque je navigue dans la catégorie de Roland Jourdain, Marc Guillemot, Philippe Coupon et Alvar Mabir, qui sont encore des légendes de cette époque. Donc je vis mon rêve éveillé.
Ces noms forcément évoquent pour tous les passionnés de voile, et bien au-delà, cette grande aventure qui avait commencé en 1978, et on a appris la mort de Mike Birch, qui fut le premier vainqueur en 1978. C'est quelque chose qui vous a attristé quand vous avez appris cette disparition ?
Pas complètement, je suis d'accord avec vous, je viens de l'apprendre en même temps que vous tout à l'heure, ça fait 3 heures que j'ai appris cette nouvelle très triste. Malheureusement, nous nous y attendions un petit peu parce que Mike, il me semble, avait un très grand âge.
90 ans.
90 ans, voilà, c'est déjà un très long parcours. On l'avait vu à Saint-Malo, il était venu la dernière fois à la Route du Rhum 2018, assez fatigué. Et on avait appris un petit peu dans le milieu là que depuis quelques mois, sa santé était déclinante. Moi, j'oublierai jamais, du haut de mes 10 ans, son visage, son trimaran Olympus jaune de l'époque, et puis toutes les nombreuses fois où on a revu Mike à Saint-Malo. Il ne s'est pas contenté de faire une route du Rhum, il en a fait au moins 4, voire 5, je crois. Il y avait Formule Tag, un magnifique catamaran vert, il y a eu le petit catamaran aussi, je ne sais plus son nom, et puis le trimaran éléphant bleu, qui était, figurez-vous, le même que le mien. La dernière route du Rhum de Mike Birch, c'est avec le trimaran Éléphant Bleu, qui est le sister ship du trimaran Interaction.
On imagine aussi que se préparer pour une course au large et puis embrasser cette carrière de skipper, je ne sais pas si on peut parler de carrière, ou en tout cas embrasser l'aventure, c'est aussi une grande envie de liberté, parce qu'on est libre sur l'océan finalement.
Ah bah complètement, on est libre. La première des choses que vous allez faire quand on prend le départ de la course, c'est déjà on retire ses clés de voiture, on retire la clé de sa maison, de ses poches, on met dans un casier les pièces de monnaie ou les petits billets qui nous restent, on coupe son téléphone parce que le téléphone ne marche plus, ses pièces d'identité, son passeport ou sa carte d'identité sont remisées à bien plus tard parce que sur la mer, souvent, on n'a pas de passeport, pas de téléphone, pas de maison, pas de voiture. Donc effectivement, on quitte nos habitudes et c'est bien l'un des plus grands plaisirs.
Et le rapport au temps n'est pas le même non plus. Alors on imagine, il y a la course, il y a quand même voilà, cette envie de gagner, cette envie d'aller de l'avant, bien sûr, d'arriver au bout, alors en premier, autant que faire se peut. Mais il y a un rapport au temps très différent en mer.
Il y a un rapport au temps très différent parce que c'est vrai qu'on se désociabilise. On va uniquement se concentrer sur la force du vent, sur l'heure de la journée, sur l'attente du vent nouveau ou la fin du vent ancien qui nous permet de nous propulser, sur les différentes zones de convergence météo ou les différentes latitudes où le climat va changer. Et effectivement, vous avez raison sur aussi le positionnement des concurrents, puisque c'est une course, c'est une aventure pour moi d'abord, mais une aventure mêlée d'une course. Et donc, il faut savoir où sont nos principaux concurrents ou collègues pour savoir comment se situer par rapport à eux, s'inspirer de leur trajectoire pour nous aussi définir la meilleure pour nous. Et donc, rentrer dans cette dimension d'être tout seul, de limiter son sommeil, de commencer à être le plus perceptif, le plus sensible possible pour sentir, renifler l'air qui nous attend. Et puis se mettre en harmonie avec notre instrument, c'est comme un instrument de musique, un bateau, c'est un instrument à cordes qu'il faut régler, il faut l'écouter, il faut entendre ses musiques, ses sons, pour bien vibrer avec lui en harmonie, à l'unisson.
Est-ce que c'est dur parfois, ces longs moments de solitude? Parce que j'imagine qu'il y a aussi cette solitude qui pèse malgré tout.
Non, pas du tout, c'est une passion, c'est pas difficile du tout. Pour moi, ce qui serait le plus difficile, c'est de ne pas réussir à vivre ce rêve. La solitude, c'est une fausse solitude parce que pour moi, la lumière, les lunes, les soleils, les animaux du large, les oiseaux, les dauphins sont là toujours pour nous dire merci d'être venu nous voir, merci d'être là avec nous. On n'est jamais seul en mer, il se passe toujours quelque chose. Il y a une crête, la crête d'une vague, il y a un arc-en-ciel, il y a une lumière, il y a une averse, un grain violent. Il y a une expression de la nature qui fait que notre rythme cardiaque monte ou descend en fonction de tous ces éléments qui se déroulent. Et donc, on est loin d'être seul. On est plutôt, on retrouve son instinct d'origine, je pense. L'homme devait à l'époque vivre des bois, des forêts, des voyages, de ses déménagements. On n'était pas des sédentaires. On était plutôt des loups solitaires, en tous les cas sauvages. Et ça réchauffe le cœur plutôt de se sentir seul. Parfois, on est beaucoup plus seul sur Terre, dans la vie, en société, que lorsqu'on est au contact des éléments et de la vérité de la nature.
Je parlais tout à l'heure du rapport au temps. Il y a ce rapport à la nature. Il y a ce rapport au danger aussi, parce que j'imagine que sur un tel parcours, avec évidemment un bateau qui va vite, il y a aussi des dangers à éviter, à jauger aussi.
Tout à fait. Mais alors pour les dangers, nous travaillons, entraînons pour cela. On a quand même des moyens aujourd'hui de navigation assez moderne, de communication avec la Terre, de réception de fichiers météo, de cartographie. Donc nous savons toujours où nous sommes, nous savons où nous devons aller ou ne pas aller. Donc à nous de savoir bien utiliser, de conserver un maximum de moyens pour nous diriger, aller dans la bonne direction. Voilà, mais tout ça c'est un plaisir, un travail, une passion, comme pour un guide de haute montagne hein, qui doit savoir quel col franchir et quel autre éviter, comme pour un homme des forêts qui doit savoir à quel arbre se reposer et puis après quel bois continuer à marcher. Je reviens toujours à la nature et la sentir pour essayer de bien s'y sentir.
On en parle beaucoup de la nature aujourd'hui, on parle aussi du réchauffement climatique. Est-ce que ça a une incidence? Est-ce que vous sentez déjà ces incidences du changement climatique sur une telle course? Est-ce que vous observez des phénomènes météo, par exemple, qu'il n'y avait pas avant?
Alors oui, il y a des phénomènes météo plus brutaux, plus actifs, des vents qui peuvent monter plus fortement, des changements plus radicaux, une montée des températures moyennes de tous les océans sur la planète, des océans qui s'acidifient également. On voit moins d'oiseaux au large d'année en année, donc moins de vie sauvage capable de s'en sortir et d'être en autonomie. Donc on voit et on sait, hein, par toutes les statistiques, tous les chiffres que nous vivons, nous avons vécu la cinquième, la sixième, puis la septième extinction de masse massive des animaux sauvages. Donc là, on y va tout droit. On parle bientôt de la fin des éléphants, des lions, pourquoi pas des requins également, des baleines un jour qui ne savent plus où aller, qui sont perturbées par toutes les ondes radar des avions, des bateaux. L'homme prend une place excessive sur la planète. Les animaux sont stressés. Ils n'ont plus leur zone de confort. Ils ne se reproduisent plus comme avant. Petit à petit, l'homme ronge la planète jusqu'au dernier centimètre carré. Et ça, c'est vraiment très inquiétant.
C'est aussi une leçon d'humilité, cette course au large, cette route du Rhum.
Ah bah oui, c'est que de l'humilité, parce que franchement, on est tout petit dans ce monde. On est tout petit, surtout au niveau de la magnificence de la nature. Quand on parle de ce qui reste, qui vit et qui est beau encore, ces animaux marins dont je vous parlais, l'immensité de l'océan, nous ne sommes rien, un grain de sable, une poussière. Donc effectivement, ça demande beaucoup d'humilité. Nos bateaux ne sont rien non plus face à la grandeur des éléments, des paysages. Donc c'est humilité qu'un grand H, c'est la lettre d'or.
Erwan Thibou-Méry, un dernier mot avant de nous quitter, de vous laisser au dernier réglage de votre bateau. On a fêté le 10 000e bulletin de la météo marine sur l'antenne de Bretagne 5. Est-ce que vous êtes un auditeur de la météo marine? Est-ce que ça vous fait encore rêver, malgré que j'imagine vous avez des moyens d'avoir la météo marine très technique aujourd'hui?
Oui, c'est vrai, je suis encore un auditeur de la météo marine. Je vais vous dire aussi pourquoi, tout simplement. C'est parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille d'un grand-père qui était dans la marine nationale, spécialisé dans la météorologie nationale. C'est-à-dire qu'il a terminé sa carrière dans les sémaphores et lui, il prenait son taux de pluviométrie, la force du vent chaque jour pour indiquer tout cela aux navigateurs, aux cargos, aux bateaux de commerce qui passaient. Donc j'ai grandi dans sa maison où il y avait les médailles d'or de la météorologie nationale au mur. Et donc, en hommage à lui et en hommage à vous et à toutes ces personnes passionnées de la nature et de la météo, j'écoute toujours régulièrement cela.
La météo marine, c'est important pour les marins. Erwan Thibou-Méry qui prend donc le large le 6 novembre prochain. Puis petit clin d'œil, c'est à 13h02, c'est précisément l'heure de la météo marine sur Bretagne 5, le bulletin de la mi-journée. On va vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette longue traversée. Et puis on va suivre évidemment cette route du Rhum sur l'antenne de Bretagne 5. Et puis on souhaite que les vents, les alizés vous portent et vous portent très vite.
Bien, merci beaucoup et puis longue vie à vous également au bulletin météo. Merci, à bientôt, Kenavo.
Kenavo.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.